tous et bienvenue dans Le Géopolitique, le seul podcast qui parle à la fois de questions d'actualité et de questions de géopolitique. Aujourd'hui, on va discuter de la stratégie chinoise en mer de Chine en s'appuyant dans notre documentaire du dessous des cartes publié il y a 2 ans que vous pourrez retrouver en lien dans la description. Alors on va être assez bref et on va laisser de côté de nombreux points dans ce Fast Hashtag 2. Je vous invite à écouter nos épisodes reportages si vous voulez aller plus loin dans les détails. Si vous voulez juste être informé sur des questions simples et basiques en vulgarisant un peu certains propos, vous êtes au bon endroit. Alors la mer de Chine, il faut savoir que c'est une mer qui représente beaucoup d'enjeux pour tous les pays qui l'abordent puisqu'il y a énormément de ressources, qu'elles soient halieutique, qu'elle soit au niveau des hydrocarbures, mais aussi polymétallique, c'est une mer très riche en ressources. C'est pourquoi la Chine souhaite la dominer, mais ce n'est pas la seule raison, il y a aussi un grand lien avec le commerce. Vous savez que la Chine a besoin du commerce parce que c'est l'usine du monde. Eh bien, un tiers du commerce international circule sur cette mer et 8 des 10 plus grands ports au monde se trouvent autour de cette mer. Je dis cette mer, mais en réalité, il y en a deux. Il y en a une à l'est et une au sud bordée par les pays de l'ASEAN, l'association des nations de l'Asie du Sud-Est, et il y a celle à l'est, donc, au sud du Japon et de la péninsule coréenne. Alors la Chine, pour dominer cette mer et accéder à toutes ses ressources, il faut qu'elle étende sa zone économique exclusive. Eh bien, elle le fait pas forcément gentiment. Elle essaye d'annexer des territoires, elle a annexé les îles Pratas qui appartenaient à Taïwan, elle a annexé aussi les îles Scarborough, elle a fait du tourisme nationaliste autour des îles Paracel, et enfin elle s'attaque maintenant aux îles Spratly, 180 îlots. La Chine n'en a que 10, mais elle souhaite revendiquer les 180. Forcément, ça ravive et ça attise des tensions énormes dans cette zone. Et il y a les gendarmes du monde, même s'ils n'assument plus ce rôle, les États-Unis, qui souhaitent réagir. Les États-Unis, ça ne leur plaît pas, ils ne peuvent pas regarder tout cela de mon œil. Et comme ils le faisaient durant la guerre froide avec l'URSS, ils appliquent un petit peu une stratégie de containment. Il y avait un rideau de fer lors de la guerre froide. Il y a 2 doubles ceintures aujourd'hui pour les États-Unis face à la Chine. Une première tracée de la Corée du Sud jusqu'aux Philippines, et une seconde qui part toujours de la Corée du Sud, mais qui englobe la Chine pour terminer du côté de l'Inde. Cette double ceinture, eh bien, elle a pour objectif pour les États-Unis de contrôler les activités militaires, économiques de la Chine. En gros, les Chinois, s'ils veulent ne pas froisser les Américains, il ne faut pas qu'ils dépassent cette double ceinture. Forcément, ça fait militariser la zone parce que la 7e flotte américaine se place dans cette zone de la mer de Chine. Les Chinois construisent énormément de flottes navales pour y répondre. 6 porte-avions sont prévus d'ici 2035 et tous les pays, même s'ils n'ont pas les mêmes moyens, tels que le Vietnam par exemple, se militarisent aussi. C'est une course à l'armement pour être sûr de pouvoir revendiquer ses droits face à l'Empire du Milieu. Alors, vous me diriez que ça paraît bizarre pour un pays, pour un État comme la Chine, de vouloir simplement dominer la mer de Chine, alors qu'on souhaite être une puissance internationale, la première en l'occurrence. Sauf qu'en réalité, s'ouvrir vers la mer de Chine, c'est s'ouvrir vers l'international, puisque c'est s'ouvrir en premier lieu vers l'Est, vers le Pacifique, qui représente un tiers de la surface globale des océans, mais c'est aussi, et surtout, s'ouvrir vers l'Ouest. S'ouvrir vers l'Ouest et vers les nouvelles routes de la soie. Vous en rappelez, on en a déjà parlé dans notre épisode, ces nouvelles routes de la soie qui prévoient de faire un itinéraire maritime 100% chinois en partant, par exemple, d'un port Hong Kong jusqu'au canal de Suez et en pouvant contrôler tout cet itinéraire. Sauf qu'à aujourd'hui, la mer de Chine, si Pékin la contrôle en plus, cela simplifie les choses. Vous me direz, oui, mais il faut passer par le détroit de Malacca, qui est sous influence indonésienne, pour accéder ensuite à l'océan Indien. Mais Pékin a réagi et est en train de construire le détroit de Kra pour un total de 30 millions de dollars. Ce détroit permettra donc d'avoir un itinéraire 100% chinois, comme on peut le préciser. Vous pouvez faire des recherches et vous trouverez de nombreuses cartes à ce sujet. Voilà, nous avons fait une liste non exhaustive de tout ce qui pouvait se passer actuellement en mer de Chine. C'était un épisode face, le 2e exactement. J'espère vous retrouver la semaine prochaine où on parlera à nouveau d'une question en 5 minutes top chrono. Je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était Gauthier, c'était le Géopolitique. Le Géopolitique, c'est sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music et toutes les autres plateformes tous les lundis matins à 9h. Adresse de contact frenchtemplates.web@gmail.com. frenchtemplates.fr pour toutes nos informations. Retrouvez nos formations certifiées sur udemy.fr/frenchtemplates.